Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, juste un mot pour signaler que l'épisode d'aujourd'hui est donc une rediffusion d'une tête chercheuse qui date du printemps avec Sonia Le Gourielec, où on parlait donc de l'Éthiopie dans sa région mais aussi de ses troubles intérieurs avec la rébellion du Tigré. Alors évidemment c'est une rediffusion en raison de l'actualité puisque le TPLF du Tigré s'est allié avec d'autres groupes rebelles depuis et a considérablement avancé ces dernières semaines, a pris des villes clés du territoire éthiopien et semblerait même en capacité d'aller jusqu'à la capitale, Addis Abeba, même si ça paraît une autre paire de manches quand même encore. Donc, rediffusion parce que ça me paraît utile, déjà parce qu'il n'y a pas tellement d'autres émissions prévues sur la question dans un futur immédiat, et qu'on parle peut-être trop peu de la situation éthiopienne. C'est un épisode qui avait le mérite de raconter aussi les racines de cette rébellion, avec notamment le fait que le Tigré a dominé traditionnellement la vie politique éthiopienne jusqu'à la prise de pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018, et que donc cette rébellion c'est aussi une manière pour les forces tigréennes de revenir sur le devant de la scène, et c'est évidemment donc une question qui est extrêmement importante pour l'Éthiopie naturellement, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Est, parce que ça remet en question le rôle de puissance dominante et stabilisatrice d'hégémon que voulait exercer l'Éthiopie dans la région. J'en profite par ailleurs pour signaler que sur ce format des têtes chercheuses, je suis très preneur de suggestions de la part des auditeurs qui sont intéressés par ce format et qui connaissent, disons, l'actualité, ou en tout cas publications marquantes dans le domaine des études de défense et de sécurité, notamment en français. C'est pas toujours facile d'avoir des idées d'articles à discuter avec leurs auteurs, ce qui implique aussi qu'il y ait évidemment un peu un enjeu méthodologique ou au moins un débat scientifique derrière l'article, comme le montrent la plupart des épisodes. Bref, si les auditeurs qui apprécient ce format ont des idées ou des envies, mes DM, mes messages sont ouverts notamment sur Twitter, et puis vous pouvez aussi évidemment nous écrire à collimateur@irsem.fr, c'est naturellement très apprécié. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, donc consacré à un article scientifique, sa genèse, la recherche qu'il dévoile et puis aussi la manière dont, avec le temps en général, il évolue et dont on peut éventuellement revoir ses conclusions à la lumière de développements ultérieurs, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Le Gourielec, maîtresse de conférence à l'Université catholique de Lille, qu'on avait déjà reçue. Mais alors c'est la première fois qu'on le fait en présentiel, comme on le dit désormais, puisque vous étiez venu nous parler dans un collimateur du mardi de Djibouti, puisque vous êtes une spécialiste de la Corne de l'Afrique, donc bonjour et bienvenue pour la première fois dans le studio du Collimateur.
Merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est plus sympathique d'échanger directement.
Tout à fait. Alors, on est aujourd'hui ici pour parler d'un article donc publié en 2018 dans la très prestigieuse revue, il faut le dire, International Affairs, que vous avez donc publié, intitulé « Regional Power, Uncontested Hierarchy, Ethiopia, an imperfect hegemon in the Horn of Africa ». Alors, je vais traduire très approximativement au débeauté. Donc, puissance régionale et hiérarchie contestée, contestation de hiérarchie, l'Éthiopie, un hégémon imparfait dans la corne de l'Afrique. Alors c'est un article très intéressant, on va évidemment en parler, mais notamment parce que c'est aussi une porte ouverte vers une autre actualité dont on a malheureusement trop peu parlé en général, et dans le collimateur aussi, mais en même temps c'était pas toujours très facile, qui est la guerre récente de la fin de l'année dernière, de fin 2020, entre l'Éthiopie, les forces gouvernementales éthiopiennes et la région semi-autonome du Tigré, ce qui posait aussi la question des relations avec l'Érythrée qui se situe au nord de l'Éthiopie. Alors évidemment, pour tout ça, c'est bien de prendre une carte parce que c'est comme ça qu'on visualise le mieux ces problèmes. Mais globalement, rappelons que l'Éthiopie est à l'Érythrée au nord, le Soudan à l'ouest et Djibouti à l'est. Et que c'est au milieu de tout ça qu'est ce grand pays, qu'est l'Éthiopie, qui est un peu le géant de la région, qu'est l'Afrique de l'Ouest. Et c'est justement de ce point de départ, de cette situation que vous partez pour faire cet article. Alors parlez-nous peut-être un peu de l'idée et surtout du concept, parce que c'est un concept qui est central, qui est très intéressant, qui est très productif, dont on n'a pas forcément, qu'on n'utilise pas forcément si facilement, ou peut-être qu'on l'utilise un peu mal d'une manière générale. C'est le concept d'hégémone, dont je vais faire le prof d'histoire une seconde pour préciser que ça vient vraiment directement de la guerre du Péloponnèse, de l'Antiquité, c'est vraiment les histoires d'Athènes et des ligues, vraiment, et de la manière dont Athènes dominait ses alliances. Mais alors, dites-nous peut-être, qu'est-ce que c'est que le concept d'hégémone en relations internationales, en théorie politique aujourd'hui, et la manière dont ça, vous avez voulu l'appliquer ou pas à la situation de l'Éthiopie dans la région d'Afrique de l'Ouest.
Alors effectivement, le concept d'hégémone, alors vous l'avez bien dit hein, dans le titre, en plus j'ai mis que des mots compliqués à dire en anglais.
je me suis vautré, mais c'est pas grave.
Donc le concept en fait est très souvent utilisé, on l'utilise dans le langage commun, souvent à mauvais escient, et en relations internationales, les travaux portent surtout sur l'hégémon américain. Contesté ou non, dans le cadre de l'unipolarité ou non, etc.
Donc déjà... juste, on peut dire, quand on l'emploie sans se figurer, souvent c'est un peu une puissance hégémonique, c'est-à-dire c'est une puissance qui fait absolument ce qu'elle veut, entièrement dominatrice, qui domine partout autour d'elle. Exactement. Or l'hégémon, c'est un peu plus subtil que ça quand même.
C'est plus subtil que ça, parce que l'hégémon, c'est pas simplement une puissance qui impose ses volontés à ses voisins ou au reste du système international. Un hégémon, il est accepté. C'est une hiérarchie, on part du postulat de base en général en relations internationales, que le système est anarchique. Mais de plus en plus, on a aussi des travaux qui disent que le système il est aussi hiérarchique. Et donc on étudie cette hiérarchie avec différents concepts, et effectivement, l'hégémon, bah, ça permet... d'avoir voilà, une vision, d'étudier le système international.
Et l'hégémon... C'est-à-dire tous les pays ne sont pas à égalité, ce n'est pas simplement des trucs bilatéraux, c'est en fait, il y a des structures, il y a des grands corps, il y a des Exactement. Grandes entités dans un système international.
Alors, c'était Olivier Gimis, justement, dans sa thèse, qui disait que le système est normativement égalitaire, mais dans la pratique, il y a une hiérarchie. Et alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer des fois à mes étudiants en droit. Je dis, les États-Unis, ce n'est pas le Bangladesh. Bien sûr que c'est un État égal une voix, ce sont des États, mais il y a une différence et il y a une hiérarchie en relations internationales. Donc c'est d'étudier ça, et l'hégémon c'est un bon concept pour l'étudier, mais l'hégémon c'est quoi ? L'hégémon c'est un État puissant, pour différents critères, la démographie, militaire, économique, mais il instaure donc une hiérarchie dans sa région ou dans le monde, mais cette hiérarchie elle est consentie. Le concept de consentement est très important dans la définition de l'hégémon. C'est consenti, c'est accepté par les voisins parce qu'ils y voient un intérêt pour eux de protection. C'est pour ça que souvent on parle aussi de la stabilité hégémonique, parce que l'hégémon va protéger ses voisins, va instaurer une sorte de paix.
On comprend exactement de quoi vous parlez si on songe aux États-Unis et par exemple à ce que peut être une organisation comme l'OTAN dont on parlait encore très récemment, qui est vraiment une organisation où clairement les États-Unis ont une place primordiale et où c'est accepté par tous les participants parce que tout le monde y trouve un peu son compte, en l'occurrence le parapluie nucléaire stratégique de la dissuasion américaine. Mais ça montre qu'on peut accepter d'être en position de relative infériorité si on considère qu'au bout du voyage, au bout du chemin, on en a retiré un gain net, quoi.
Exactement. Il ne s'empêche pas de critiquer, de challenger, mais on accepte finalement toujours cette position parce qu'on y retire plus d'intérêt. Et ce qui est intéressant, donc, c'est surtout étudié pour les États-Unis, dans les pays occidentaux, et c'est de se dire, en relation internationale, on étudie trop peu l'application de ces concepts qui sont souvent européano-américano-centrés et appliqués aux périphéries. C'est de se dire, à partir des périphéries ou des États du Sud, qu'est-ce que ces États et leur expérience nous disent de ces concepts ou les remettent en question ? Et l'idée, c'est qu'on observe l'Éthiopie, comme vous l'avez dit dans la présentation, dans sa région, c'est la puissance régionale. 112 millions d'habitants, les voisins, c'est 3 millions au nord, 40 à l'ouest, 1 million à Djibouti, 12 millions en Somalie peut-être. Donc c'est la puissance régionale.
économiquement, depuis quelques années, on s'est rendu compte que, qu'il y avait un grand développement. Ils ont un modèle de developmental state basé sur des États asiatiques. Ils veulent être un État intermédiaire en termes de revenus d'ici 2025. Enfin, il y avait vraiment une grande dynamique.
On peut dire, alors, parce que peut-être que les auditeurs ne sont pas entièrement au fait de l'actualité des chiffres de croissance éthiopiens au quotidien, ça ce serait compréhensible, mais enfin, ça fait des années et des années qui font valoir des chiffres de croissance à deux chiffres, etc.
Ouais.
Alors, même si, bon, ça peut être éventuellement un peu discutable, mais dans tous les cas, il se présente comme un pays émergent de loin, mais émergent en tout cas dans la région. Quoi.
Exactement. Les entreprises chinoises s'installent en Éthiopie. Beaucoup d'entreprises, H&M, etc., s'installent maintenant en Éthiopie. Alors là, on est dans une période, une conjoncture un peu différente, mais regardons sur un temps un peu plus long. Donc, il y a vraiment une dynamique économique et militaire également. C'est une puissance militaire du continent qui participe à beaucoup d'opérations de maintien de la paix, etc. Bref, tous ces critères font que c'est une puissance régionale. Et en plus, dans les discours et dans les textes, il y a une volonté d'être un hégémon. Au sens d'être accepté par ses voisins, d'être un hégémon bienveillant. Notre priorité, c'est la sécurité et le développement économique. Et ça passe par une région stable. Et du coup, on va être un peu les gendarmes, les policiers de la région pour stabiliser la région dans notre intérêt et dans la celle des voisins.
Ouais, alors c'est peut-être le moment de dire aussi qu'il y a un passif assez lourd, puisque même d'un point de vue régional, c'est-à-dire il y a eu une longue guerre, une très très longue guerre d'indépendance entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui a duré une trentaine d'années, qui s'est terminée globalement en 1991, de 61 à 91, mais où donc on voit bien le problème que c'était, c'est-à-dire, bon, parce que l'Éthiopie voulait que l'Érythrée fasse partie de l'Éthiopie, etc., mais on voit bien le problème, c'est si on est dans une guerre frontalière au quotidien, évidemment c'est pas exactement les conditions favorables du décollage économique, et donc il y a l'idée que dans cette région qui a connu tant de troubles, spécialement enfin depuis 30 ans, notamment dans les années 90, bon, il y aurait quand même un intérêt à stabiliser tout ça sous la grande tutelle de l'Éthiopie, et que, en fin de compte, même si c'est des relations un peu inégalitaires, ça bénéficierait évidemment à l'Éthiopie, mais ça bénéficierait à tout le monde.
Exactement. Et du coup, bah là, c'est presque, voilà, c'est terminé tout. Eh bien non, parce que dans les faits...
Ça n'est pas la fin de l'histoire.
Et non, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'Éthiopie se présente comme un hégémon, au sens un hégémon bienveillant, s'il faut vraiment préciser la définition. Et en fait, quand on regarde depuis 20, 30 ans, même plus, le bilan de cet hégémon, bah, la Corne de l'Afrique ne va pas très bien. Alors, vous avez parlé de l'Érythrée, la guerre 98-2000, et le fait que, je ne rentre pas dans les détails, mais que l'Éthiopie ait refusé d'appliquer les règles du droit international a participé à une radicalisation du régime érythréen qui est aujourd'hui présenté comme un régime totalitaire. La Somalie, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, c'est une catastrophe. On ne sait pas quand il va y avoir des élections.
C'est une catastrophe depuis longtemps, et ne parlons même pas de ce que ça a été dans les années 90. Enfin bon, c'est Djibouti. Vous étiez venu en parler. Donc,
on va en revenir dessus.
Donc mais c'est tout un chapitre. Mais il y a une stabilité. Mais bon, il y a quand même des limites à ça. En tout cas, il y a des questions qui se posent. Donc bon, on ne peut pas dire que si l'Éthiopie est l'hégémon, il faut peut-être faire le bilan et poser quelques questions.
Exactement. Il a peut-être raté son bilan au niveau régional, en tout cas. Donc, c'était un peu ce constat, en fait. Je suis partie de ça pour faire l'article. C'est de me dire, OK, les textes, les faits font que c'est une puissance régionale, qu'on peut comparer à un hégémon, qui se présente comme un hégémon bienveillant. Le bilan n'est pas terrible. Et pire que ça, dans les voisins contestent l'hégémon. Les voisins ne le trouvent pas légitime. Pour différentes raisons liées à la religion, par exemple. J'ai entendu à Djibouti, ils ne sont pas légitimes, ce sont les chrétiens de la région est musulmane, etc. Donc il y a différents critères également, différents facteurs qui permettent de dire les voisins refusent cette hégémonie. Et du coup, bah, la thèse en fait, de l'article, c'est de dire eh bien, c'est un hégémon imparfait. Il se vit comme un hégémon bienveillant, mais dans la pratique, il n'en a pas le bilan, et en plus, il est contesté, sa légitimité est contestée par ses voisins.
Très bien, mais alors, du coup, comment est-ce qu'on peut faire, en quelque sorte, l'actualité de ça ? C'est-à-dire, on a vu qu'il y a des... C'est-à-dire, ne serait-ce que du point de vue que du fait qu'il y a des guerres régulières avec l'Érythrée, etc., on voit bien que l'hégémonie, elle est de toute façon pas stable. C'est-à-dire, il y a besoin de la réaffirmer, et de la réaffirmer périodiquement par la force. Ce qui, on mesure, n'est pas forcément l'objectif d'un système hégémonique vécu pour être stable. Donc, comment dire, comment est-ce qu'on peut le voir au côté... Alors déjà, pourquoi est-ce que ça marche pas ?
Pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce que, alors oulala, il y a tellement de raisons.
C'est-à-dire, parce que c'est pour essayer de sortir un peu du truc, voilà, c'est la Corne de l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Est, c'est des guerres tribales, c'est le désert, c'est des frontières qui sont mal faites et qui du coup créent tout un tas de conflits. Autant de choses qui sont pas évidemment totalement fausses, mais qui sont souvent une réduction un peu orientalisante, disons, des conflits d'Afrique de l'Est. Si on essaye d'aller un peu plus dans le détail que ces grandes explications intemporelles, qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qui a pas fonctionné dans la tentative de l'Éthiopie de stabiliser la région?
Alors, je donnerai deux éléments. D'une part, je pense que l'Éthiopie souffre continuellement à la fois de son histoire, parce que ça a été un empire. Donc les voisins voient l'Éthiopie comme continuant à avoir des pratiques impériales qui ne respectent de prédation, qui ne respectent pas forcément le droit, etc. Et
ce qui est de fait le cas. Enfin, oui. L'Éthiopie, après le cessez-le-feu avec l'Érythrée en 2000, n'a pas respecté le droit international. Il s'avère que ça, c'était pas si important pour la communauté internationale.
Parce qu'il y avait d'autres priorités. Il y avait la lutte contre le terrorisme. Et du coup, c'est mon deuxième point. À la fois, ils sont vécus comme impériales. Et en plus, l'Éthiopie souffre aussi de ses alliances. Et l'Éthiopie a toujours été, pour les Occidentaux, les États-Unis, l'Europe, la puissance régionale, le pivot régional qui permettra de lutter contre le terrorisme. Et c'est pas pour rien si on parle de l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est juste après 2001. Et la priorité, c'était l'Éthiopie et la stabilité de la région face au terrorisme. Donc, bon, bah tant pis, on fait avec... c'est l'Éthiopie qui est le gendarme de la région. Quand en décembre 2006, l'Éthiopie est intervenue en Somalie, c'était aussi, au départ, en dehors des règles du droit. Et ça avait été, comme pour les États-Unis en Irak, la question de savoir si c'était une attaque préemptive ou une guerre préventive, et donc de savoir si elle était légale ou pas. Donc ça, c'est arrivé quand même à plusieurs reprises. Je crois que, alors, sans faire de l'orientalisme justement, mais Christopher Clapham, qui est un grand professeur anglais qui travaille sur la Corne et l'Éthiopie depuis très longtemps, explique lui que la Corne de l'Afrique, elle est différente de tout le reste du continent africain, par sa trajectoire historique et par le fait que très longtemps, ce sont les hauts plateaux, et il faut aussi avoir une carte en relief de la Corne de l'Afrique, ce sont les hauts plateaux qui ont dominé et qui a toujours eu justement des oppositions et des guerres entre les hauts plateaux et le centre de pouvoir et les périphéries.
Alors les hauts plateaux, c'est quelle région, quel pays?
Les hauts plateaux, c'est actuellement où est Addis Abeba et le nord de l'Éthiopie, où est aussi le Tigray aujourd'hui. Et donc c'est toute cette zone qui a l'ancien empire abyssin, l'Abyssinie. Donc c'est toute cette zone qui dominait et il y a toujours eu des luttes avec les périphéries. Et Alain Gascon parle du syndrome du Gragne, c'est-à-dire que c'était un combattant qui venait de Somalie, qui était musulman et qui attaquait aussi à une époque l'Éthiopie. Et on dit que c'est un syndrome qui revient fréquemment, ce sentiment qu'ont les Éthiopiens, en tout cas des hauts plateaux, de pouvoir être envahis ou pouvoir être challengés, en tout cas par les voisins. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois au niveau régional et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en Éthiopie même. Parce que l'hégémon, il est peut-être régional, mais l'hégémon, il est aussi en interne de différentes populations qui sont en Éthiopie. Et certains chercheurs vont même jusqu'à dire on assiste peut-être actuellement à une décolonisation, la dernière décolonisation africaine, mais de populations africaines sur d'autres populations africaines, qui datent de l'époque de la Shoah, etc. Du Shoah, pas de...
Mais alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est le Shoah?
donc ça n'a rien à voir avec l'Holocauste.
Ça n'a rien à voir avec la Shoah.
c'était une époque des rois éthiopiens où il y a eu cette extension, justement, de l'Éthiopie et la fabrication, la construction de l'État éthiopien moderne. Et donc, vous avez toujours, et on vit actuellement encore, donc cette opposition centre-périphérie. Qu'aucun gouvernement éthiopien n'est parvenu à résoudre, que ce soit l'empereur Haïlé Selassie, puis le Derg, Mengistu, dans les années 80, qui ont essayé de faire un pouvoir central très fort et qui ont été combattus par les périphéries, dont faisaient partie les rebelles du Tigray à l'époque. Et quand les Tigréens sont arrivés au pouvoir, ils ont essayé d'avoir une autre solution et de mettre en place plutôt du fédéralisme ethnique. Donc que les périphéries et les ethnies aient un pouvoir plus important. Bon, dans les faits, c'était autoritaire.
Non, mais alors là, c'est intéressant parce que ça nous ouvre vers la partie plus contemporaine. Il faut rappeler que donc en 91, le pouvoir central, enfin le régime, disons, socialiste éthiopien tombe, c'est remplacé par un pouvoir effectivement plus ou moins fédéraliste, avec dont, la puissance centrale, c'est le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Et qui est largement dominé par les personnes du, enfin, disons, les éléments qui viennent du Tigré. Donc le Tigré, je rappelle, c'est la grande région au nord de l'Éthiopie qui est frontalière de l'Érythrée. Donc, si, une fois que ce rappel est fait, on sait que à la fin de l'année dernière, il y a eu des troubles, disons, voire même une guerre complètement ouverte.
On peut dire une guerre civile aujourd'hui. Hein.
Voilà, entre le Tigré, qui est une région qui, depuis 30 ans, dominait globalement la vie politique éthiopienne, et le pouvoir central, puisque les forces tigréennes avaient un peu perdu ce pouvoir depuis, disons, un an, en fin d'année dernière. Et donc, a eu lieu cette guerre ouverte, donc ce conflit, etc., avec évidemment l'Érythrée qui n'est pas loin et qui... Bon, il y a évidemment un énorme passif entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et donc évidemment on se demande quel rôle joue l'Érythrée là-dedans. Il y a plein d'autres acteurs qui peuvent aussi être intervenus, mais on va essayer de faire simple dans un premier temps. Donc, quand vous avez vu ça, enfin, c'est-à-dire... C'est toujours une question que j'essaie de poser dans ce format, c'est-à-dire comment est-ce que cet article-là a vieilli? Et alors, souvent, c'est comment est-ce qu'il vieillit par rapport à vos orientations de recherche et l'évolution de vos intérêts. Mais là, en l'occurrence, il y a eu une actualité particulièrement brûlante qui concerne l'Éthiopie dans la région, la stabilité, la guerre, la paix dans la Corne de l'Afrique. Comment est-ce que vous avez lu, disons, cette situation de l'an dernier à la lumière de vos réflexions sur l'hégémonie imparfaite de l'État éthiopien?
Alors, je me suis replongée dans l'article en préparant justement l'émission. Et j'ai été un peu rassurée. Alors certes, je parle principalement du pouvoir qui était en place à l'époque, donc qui est effectivement une coalition qui était au pouvoir, mais la coalition était dominée par un parti ethnique, qui est le parti de TPLF, donc qui vient du Tigré. Donc il me semblait que l'article reste pertinent, c'est bien que tu dis ça quand même, l'article reste pertinent sur la région.
L'article est très pertinent, il est par ailleurs disponible en ligne gratuitement, oui. Et c'est une très bonne lecture pour comprendre un peu la région au sens large.
Oui, je pense, parce que j'essaye de revenir sur, c'est facile de dire ça, mais j'essaye de revenir sur l'histoire aussi un peu de la région et le rôle forcément de l'Éthiopie. Et donc il me semble que les grandes lignes effectivement restent pertinentes. L'Éthiopie reste qu'elle est, elle a toujours un rôle très important au sein des opérations de maintien de la paix. Qui peut expliquer aujourd'hui pourquoi on a une paralysie ou un silence des organisations internationales? Donc on comprend bien aussi en fait la situation actuelle.
C'est-à-dire l'Éthiopie met la main à la pâte sur tout ce qu'il y a à faire sur le continent africain, parce que c'est une des armées qui est très loin d'être ridicule au sein de l'Union africaine. Donc bon, ça explique pourquoi c'est peut-être un peu plus compliqué de venir leur faire la morale quand ils sont en train de réprimer des choses sur leur propre territoire.
Ça permet de diminuer les pressions démocratiques, effectivement, des acteurs extérieurs. C'est pas pour rien que les principaux contributeurs aux troupes de maintien de la paix de l'ONU ou de l'Union africaine sont des pays d'Afrique de l'Est et des pays principalement plutôt autoritaires. C'est pas pour rien. Et donc là, on a découvert effectivement qu'en en novembre 2020, au moment de cette guerre civile. On a eu au tout début, tout de suite, des réactions de tous les voisins, des organisations internationales, ONU et Union africaine, qui ont proposé des médiations, refusées par Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien. Et depuis, on est plutôt dans un silence. Donc on a plein de caricatures qui montrent, voilà, on ferme les yeux, on ferme... Alors, côté Union africaine, on a...
Alors d'abord, dites-nous peut-être sur quoi on en est resté, parce qu'on sait qu'il y a eu des tirs de roquettes assez larges. On en est où en termes de situation militaire, de cessez-le-feu? Il y a eu des mouvements de troupes, etc. Mais en même temps, c'est un espace largement désertique, donc c'est toujours compliqué d'occuper vraiment le terrain. On en est où là, à l'heure actuelle?
Alors, on en est que en novembre, le TPLF, dont les Tigréens ont reconnu avoir attaqué une base militaire fédérale éthiopienne.
Ça vaut mieux, parce qu'attaquer une base militaire fédérale américaine, j'aurais pas donné cher de leur peau.
Mais en même temps, si le rôle du chercheur est de donner du sens, cet acte reste un acte suicidaire et dont il est difficile de trouver un sens. J'espère qu'on fera des terrains plus tard là-dessus. Donc le Tigré a attaqué une base fédérale éthiopienne dans le Tigré. Le gouvernement central éthiopien a répondu. Et dans le droit international, ils ont le droit. S'il y a une mutinerie, s'il y a une levée d'une partie de la population, ils ont expliqué que c'était effectivement une opération de maintien de l'ordre, de restauration de l'ordre constitutionnel. Donc là, tout le monde regardait un peu en observant ce qui se passait. Sauf que là où il y a moins de respect du droit international, notamment humanitaire, c'est qu'il faut protéger les populations, et ce qui n'a pas été le cas. À tel point que mi-novembre, un porte-parole parole, un militaire éthiopien disait que on va prendre Mekele, la capitale du Tigray, il faut que les populations se protègent elles-mêmes. Donc ça, ça a été un petit peu l'erreur. Où on en est depuis ? La guerre a duré un mois, du 4 novembre au 28 novembre. Une partie des Tigréens sont rentrés en rébellion, donc il y a une guérilla. Aujourd'hui, ils tiendraient un territoire où il y a 1 million de personnes qui vivraient. Ils sont, a priori, ils ont un gros soutien de la population, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'exactions, soit des Érythréens qui sont présents sur place, des forces érythréennes présentes sur place, que le régime éthiopien a longtemps nié, puis reconnu, soit des forces éthiopiennes.
Oui, parce que rappelons que c'est une frontière pas particulièrement inviolable, donc c'était le moyen pour les Érythréens, qui sont, on peut le rappeler, une dictature militaire quand même, qui a toujours des vues sur, pour grignoter un peu, c'était un moyen de faire des petites incursions en territoire éthiopien, quoi.
Oui, et les relations allaient mieux entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et c'est ce qui a valu à Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, d'obtenir le prix Nobel de la paix pour cette réconciliation avec l'Érythrée. Donc il a été soutenu dans son opération par l'Érythrée, et par des milices Amara, qui sont une autre population plus au sud du Tigré. Donc vous avez eu beaucoup il y a eu beaucoup d'exactions. Et on en est aujourd'hui, à un moment où les forces du Tigré disent accepter les propositions des Américains, c'est-à-dire de négocier, qu'il y ait un dialogue national, de poser les armes, etc. Mais c'est refusé par Addis Abeba. Ce qu'il faut dire qu'il va y avoir des élections en Éthiopie, des élections nationales. Elles ont été reportées à nombreuses reprises à cause du contexte sanitaire. Ça a été l'étincelle aussi qui a provoqué le conflit avec le Tigré en novembre. Et donc, il y a des élections lundi qui vont, selon le gouvernement éthiopien, qui devrait être une journée de la démocratie et que ce sera les élections les plus fair de l'histoire de l'Éthiopie. Néanmoins, vous avez de nombreuses régions qui ne pourront pas participer au scrutin à cause de la situation sécuritaire, à cause de problèmes aussi pour apporter les bulletins de vote, etc. Donc ça ne sera pas nécessairement très représentatif. Et on peut essayer d'imaginer que le pouvoir central ne n'accepte pas non plus de baisser les armes et d'un dialogue national, c'est parce qu'il y a ces élections, ils veulent jouer sur le côté nationaliste. Mais là, on est très très loin d'un dialogue national, puisque le parti tigréen et nombreux autres partis ont été déclarés des partis terroristes.
C'est ce qui met toujours une bonne ambiance avant des élections.
C'est difficile de se retrouver autour d'une table.
Ouais, c'est peut-être l'objectif. Non, mais alors du coup, puisqu'on a là un point sur la situation, disons, interne, qu'est-ce que ça fait, ou ça ne fait pas, à l'hégémonie de l'Éthiopie dans la région ? C'est-à-dire, vous venez de nous le dire, les relations avec l'Érythrée sont un peu meilleures. Il y a le Soudan à l'ouest. Le Soudan, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il y a le Soudan, le Sud-Soudan, et bon, on sait que c'est pas... Tout ne va pas mieux, pour le mieux dans le mieux.
Il y a une transition en cours, oui.
Voilà, bon, c'est un peu... Il y a un chantier, quoi. Non, mais qu'est-ce que ça fait, disons, ces troubles internes à l'Éthiopie, à sa position dans la région, et à l'espoir, bon, alors même si on a vu que c'était déjà largement entravé, même avant l'année dernière, que, sous la tutelle bienveillante de l'Éthiopie, l'Afrique de l'Est sorte enfin, disons, de la stagnation économique et des crises à répétition, quoi.
Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça remet totalement en question la crédibilité et la légitimité de l'acteur éthiopien au niveau international. Au niveau régional, j'en suis pas si sûre. Pourquoi ? Parce qu'au moment du conflit, Abiy Ahmed a lancé une campagne diplomatique dans toute la région et il a obtenu le soutien de tous ses voisins dans cette campagne, et c'était même un soutien personnel à Abiy Ahmed. Donc je ne sais pas si ça a beaucoup remis en question sa crédibilité, sa légitimité. En tout cas, ça a affaibli la puissance éthiopienne, puisque économiquement, c'est une économie basée sur les infrastructures, avec une grosse dette, et il faut faire fonctionner ces infrastructures pour pouvoir rembourser la dette. Ça a remis en question sa crédibilité en tant que pivot auprès des acteurs internationaux, qui commencent à s'inquiéter de cette situation. Et surtout, tout le monde est dans une période d'observation, parce que la déstabilisation de l'Éthiopie, l'explosion de l'Éthiopie, ça risque d'avoir des répercussions sur toute la région. Ça, on a déjà à la frontière du Soudan, où il y a eu une contestation frontalière. On a pensé qu'il y aurait peut-être même une guerre avec le Soudan. Ça donne aussi beaucoup plus de liberté à l'Égypte, à l'acteur égyptien qui refait une entrée très forte. Enfin, il n'est jamais vraiment parti dans toute la corne de l'Afrique parce qu'il y a aussi une opposition entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur la construction d'un grand barrage sur le Nil qui affaiblirait l'Égypte. Donc là, on a aussi un retour de l'Égypte qui a les coudées plus franges aussi avec les acteurs internationaux parce qu'ils peuvent montrer, regardez ce que fait l'Éthiopie et Abiy Ahmed sur son territoire. Ça,
on en parlera un jour parce que c'est vraiment un point de conflictualité énorme qui va arriver. C'est l'idée qu'il y a un gros barrage qui est sur le Nil. Ça, enfin bon, je sais pas ce que ça va devenir, mais je vois pas comment ça. Enfin, ça ne peut pas exploser d'une manière ou d'une autre.
C'est très inquiétant. Il y a eu des menaces de bombardement du barrage par les Égyptiens. Là, en juillet, les Éthiopiens vont rentrer dans la deuxième phase de remplissage de ce barrage. Les Égyptiens et les Soudanais n'ont pas réussi à réinstaurer le dialogue avec l'Éthiopie. Les Américains ont supprimé les aides. Donc Trump, avant le conflit de novembre, avait supprimé les aides, suspendues en tout cas, aux Éthiopiens pour les forcer à aller autour de la table. C'est vraiment... le barrage est très intéressant parce que c'est une continuité en Éthiopie. Ça a été lancé par Meles Zenawi, le précédent Premier ministre, qui était tigréen. C'est maintenu et Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre, se bat aussi pour ce barrage. C'est un symbole fort de nationalisme pour les Éthiopiens. Ils l'ont construit eux-mêmes, sans l'aide de personne, et ils comptent bien aller jusqu'au bout.
Non mais du coup c'est intéressant parce que si l'Égypte revient comme un chien dans un jeu de quilles dans les fragiles équilibres de l'Afrique de l'Est et cherche à affaiblir l'hégémon tout imparfait qu'il soit de l'Éthiopie, ça promet encore beaucoup d'instabilité dans cette région qui n'en manquait déjà pas.
Oui, on est très loin de stabiliser la région et les semaines, les mois qui viennent, il faudra observer ce qui se passe en Éthiopie parce que c'est tout le destin de toute la région qui va se jouer.
Bien, eh bien, c'est sur cette conclusion légèrement dramatique qu'on va s'arrêter. Donc, pour cet excellent article que je recommande encore, qui est disponible en ligne, donc article paru dans International Affairs en septembre 2018, avec un titre qui est donc décidément très piégeux, mais auquel je vais encore m'essayer, Regional Power, Uncontested Hierarchy, Ethiopia, An Imperfect Hegemon in the Horn of Africa, que vous avez donc publié, Sonia Le Gourielec. Merci beaucoup.
Merci.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.